Chapitre 6. Conversation amicale dans la cuisine. Elle se termine d'une manière fort ordinaire, mais non pas fort amicale. Tandis que nos amants se livraient au genre d'occupation dont j'ai dit un mot dans le chapitre précédent, ils occupaient encore leurs bons amis dans la cuisine, et cela de deux manières, en fournissant matière à leur conversation et en leur procurant en même temps la boisson nécessaire à l'animer. La compagnie qui s'était rassemblée autour du feu de la cuisine était composée de l'hôte et de l'hôtesse qui allaient et venaient, suivant le besoin de M. Partridge, du sergent, du cocher qui avait conduit la jeune dame et de sa femme de chambre. Partridge, ayant instruit la compagnie de ce qu'il avait appris de l'homme de la colline et de la situation dans laquelle Jones avait trouvé Mrs. Waters, le sergent se mit à raconter tout ce qu'il savait de l'histoire de cette dame. Il dit qu'elle était la femme de M. Waters, capitaine de son régiment, et qu'elle l'avait souvent accompagnée à la garnison. Il y avait des gens, dit-il, qui se permettaient de douter qu'ils se fussent légitimement mariés dans une église. Mais quant à moi, ce n'est pas mon affaire. Je dois l'avouer pourtant, si l'on exigeait mon serment de caporal, je crois qu'elle ne vaut guère mieux que nous. Et quant au capitaine, je crois qu'il n'ira en paradis que quand le soleil brillera par un jour de pluie. Mais s'il y va, il ne manquera pas de compagnie. Quant à la dame, pour ne pas faire le diable plus noir qu'il n'est, c'est une bien bonne patte de femme qui aime l'uniforme et veut qu'il soit considéré. Elle a souvent demandé grâce pour de pauvres soldats, et si l'on avait toujours égard à ses généreuses sollicitations, il n'y en aurait jamais aucun de puni. Mais cependant, il est bien sûr que l'enseigne Northerton et elle étaient très bien ensemble à notre dernière garnison. Voilà la vérité du fait. Mais le capitaine n'en sait rien, et tant qu'il en restera assez pour lui, c'est comme si rien n'était. Il ne l'en aime pas moins, et je suis sûr qu'il passerait son épée au travers du corps de quiconque en dirait du mal. C'est pourquoi je n'en dirai pas pour ma part. Je répète seulement ce que les autres disent, et sûrement il doit y avoir un peu de vrai dans ce que tout le monde dit. Oui, oui, et beaucoup de vrai, je vous en réponds, s'écria Partridge. Veritas odium parit, la vérité engendre la haine. Tout cela, c'est de la calomnie, dit l'hôtesse. Je vous garantis que, maintenant qu'elle est habillée, elle a l'air d'une bien honnête dame. Et sa conduite y répond, car elle m'a donné une guinée pour l'usage de quelques-uns de mes vêtements. C'est une bien honnête dame, en effet, dit l'hôte à son tour. Et si vous n'aviez pas été un peu trop vive, vous ne lui auriez pas cherché querelle comme vous l'avez fait lorsqu'elle est arrivée ici. Eh, mais vraiment, il vous convient bien de parler de cela, répondit l'hôtesse. Si ce n'avait été votre sottise, il ne serait rien arrivé. Mais il faut que vous vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas, et que vous lâchiez toujours quelques sots discours. Bien, bien, reprit l'hôte, on ne peut faire que ce qui est passé ne soit pas passé. Mais tout est fini maintenant. Oui, encore pour cette fois, s'écria-t-elle. Mais vous ne vous corrigerez jamais. Ce n'est pas la première fois que j'ai souffert de vos crâneries. Je voudrais que vous puissiez contenir votre langue dans la maison et ne vous mêler que de ce qui se passe au dehors. Ne vous rappelez-vous pas ce qui est arrivé il y a environ 7 ans? Eh, ma chère, reprit-il, faites-nous grâce de vos vieilles histoires. Allons, allons, tout est bien et je suis fâché de ce que j'ai fait. L'hôtesse allait répliquer, mais elle en fut empêchée par le sergent pacificateur au grand déplaisir de Partridge, qui était grand amateur de chroniques scandaleuses et non moins grand promoteur de toutes ces petites querelles innocentes qui amènent toujours à leur suite plus d'incidents comiques que tragiques. Le sergent demanda à Partridge de quel côté il voyageait avec son maître. « Que voulez-vous dire avec votre maître ?» répondit Partridge. « Je ne suis le domestique de personne, je vous assure, car quoique j'aie éprouvé des malheurs dans ma vie, j'ai toujours écrit « Monsieur » devant mon nom. Et tout pauvre que je peux paraître à présent, j'ai tenu dans mon temps une école où j'apprenais la grammaire. « J'espère, monsieur, que je ne vous ai pas offensé, » dit le sergent. « Mais pardonnez-moi si j'ose vous demander de quel côté vous voyagiez avec votre ami. »« Vous avez dit le mot, » dit Partridge, « amici sumus, et je vous proteste que mon ami est un des plus grands seigneurs du royaume. » À ces mots, l'hôte et l'hôtesse dressèrent les oreilles. « C'est l'héritier de M. Allworthy. »« De ce gentilhomme qui fait tant de bien dans tout le pays ?» s'écria l'hôtesse. « Oui, lui-même, » répondit Partridge. « En ce cas, je vous promets, » dit-elle, « qu'il aura par la suite de belles et vastes possessions. Très certainement, répondit Partridge. Eh bien, reprit l'hôtesse, dès le premier moment que je l'ai vu, j'ai toujours pensé qu'il avait l'air d'un bon gentilhomme. Mais mon mari ici présent est sans doute plus habile que personne, car « J'avoue, ma chère, dit-il, que c'était une méprise. »« Une méprise, en effet, répondit-elle. Mais quand m'avez-vous vu faire de telles méprises ?»« Mais comment se fait-il, monsieur, dit l'hôte à Partridge, qu'un si grand seigneur voyage ainsi à pied ?»« Je ne sais, répondit Partridge, les grands seigneurs ont quelquefois des caprices. » Dans le moment que je vous parle, il a une douzaine de chevaux et de domestiques à Gloucester. Rien n'a pu l'empêcher la nuit dernière qu'il faisait si chaud de venir se rafraîchir en se promenant vers cette haute colline que vous voyez là-bas, et où j'ai été aussi me promener pour lui tenir compagnie. Mais si jamais on m'y rattrape, car je n'ai jamais eu si peur de ma vie, nous y avons rencontré l'homme le plus étrange. Je veux être pendu, s'écria l'hôte, si ce n'était pas l'homme de la colline, comme on l'appelle, s'il est vrai encore que ce soit un homme, car je connais plusieurs personnes qui croient que c'est le diable qui habite là. « Ma foi, c'est assez probable, dit Partridge. Et maintenant que vous m'y faites penser, je crois vraiment et de bonne foi que c'était le diable, quoique je n'ai pu apercevoir son pied fourchu. Mais peut-être se sert-il du pouvoir qu'il a de le cacher, puisque les mauvais esprits peuvent paraître sous telle forme qu'il leur plaît. Et je vous en prie, monsieur, dit le sergent, j'espère que je ne vous offense pas, quelle sorte d'homme est le diable? Car j'ai ouï dire à quelques-uns de nos officiers qu'il n'existait pas d'être de cette espèce, et que ce n'était qu'une invention des curés pour empêcher qu'on ne les casse aux gages. Car s'il était publiquement connu qu'il n'y eût pas de diable, les curés ne seraient pas plus utiles que nous en temps de paix. Ces officiers, dit Partridge, sont sans doute des gens fort instruits. Pas extrêmement, répondit le sergent. Je suis sûr, monsieur, qu'ils n'en savent pas la moitié autant que vous, et j'ai toujours cru fermement qu'il devait y avoir un diable, quoi qu'ils en aient dit, et quoique l'un d'eux fût capitaine. Car, me suis-je dit à moi-même, il me semble que s'il n'y avait pas de diable, on ne pourrait pas lui envoyer les méchants, et j'ai lu tout cela dans un livre. Quelques-uns de vos officiers, dit l'hôte, trouveront quelque jour à leur dépens sans doute qu'il y a un diable, et j'espère qu'il leur fera payer quelques vieux échos qu'ils ont laissés sur mon compte. J'en ai eu un logé ici il y a 6 mois, qui avait le cœur de me prendre un de mes meilleurs lits, quoiqu'il dépensât à peine 1 shilling par jour dans la maison, et qu'il permît à ces gens de faire cuire leurs choux au feu de la cuisine, parce que je ne voulais pas leur faire à dîner un jour de dimanche. Tout bon chrétien doit désirer qu'il y ait un diable pour la punition de ces misérables-là. « Halte là, monsieur l'aubergiste, dit le sergent. N'insultez pas l'uniforme, car je ne le souffrirai pas. Au diable l'uniforme, ceux qui le portent m'ont assez fait souffrir. Vous en êtes témoin, messieurs, dit le sergent, il maudit le roi, et c'est un crime de haute trahison. Je maudis le roi, vilain que vous êtes, dit l'hôte. Oui, vous l'avez maudit, s'écria le sergent. Vous avez maudit l'uniforme, et c'est maudire le roi, c'est absolument la même chose. Car tout homme qui maudit l'uniforme maudirait le roi s'il l'osait. Ainsi, dans ce cas-là, c'est absolument la même chose. « Pardonnez-moi, monsieur le sergent, dit Partridge, c'est un non sequitur. » Ce mot que le sergent prit malheureusement pour un affront est un terme de logique et signifie que telle conclusion ne suit pas de telle proposition. « Point de votre jargon étranger, répondit le sergent, se levant précipitamment de son siège. « Je ne resterai pas assis tranquillement à entendre insulter l'uniforme. » « Vous ne m'avez pas bien entendu, mon ami, s'écria Partridge. Je n'avais pas le projet d'insulter l'uniforme. Je dis seulement que votre conclusion était un non sequitur. Vous en êtes un autre, s'écria le sergent. Et si vous le prenez par là, je ne suis pas plus un sequitur que vous. Vous êtes un tas de faquins, et je vous le prouverai, car je m'engage à combattre le plus brave de vous tous, et je parie 20 guinées que je le rosse comme il faut. » Ce défi imposa en effet silence à Partridge, dont l'appétit pour le combat n'était pas encore revenu après celui dont il avait été, il n'y avait qu'un moment, si complètement régalé. Mais le cocher, dont les os étaient moins malades, et le désir de combattre un peu plus vif, ne supporta pas si aisément cet affront, dont il jugeait avec raison qu'une partie au moins était tombée sur lui. Il se leva donc, s'avança vers le sergent, et lui dit en jurant qu'il se croyait un aussi brave homme qu'aucun autre militaire. Il lui proposa de se battre avec lui à coups de poing, en mettant une guinée au jeu. Le militaire accepta le combat et refusa la gageure. Ils se dépouillèrent aussitôt tous deux et engagèrent l'action. Mais le conducteur de chevaux fut si bien rossé par le conducteur d'hommes qu'il fut obligé d'employer le peu qu'il lui restait de respiration à demander quartier. La jeune dame, qui était empressée de continuer son voyage, avait donné ordre que l'on mît les chevaux à la voiture, mais ce fut inutilement, car le cocher était hors d'état de remplir ses fonctions ce soir-là. Un païen du temps passé aurait peut-être attribué cette impuissance au dieu du vin, non moins qu'au dieu de la guerre. Car, dans la vérité, les deux combattants avaient abondamment sacrifié à l'une et à l'autre de ces deux divinités. Pour parler sans figure, ils étaient tous les deux ivres morts, et Partridge n'était pas dans une situation beaucoup meilleure. Quant à l'hôte, boire était son métier, et le vin ne produisait pas plus d'effet sur lui que sur aucun des autres vases dont on se servait dans sa maison. La maîtresse de l'auberge ayant été invitée par M. Jones et par sa compagne à prendre le thé avec eux, leur fit un ample détail de la dernière partie de la scène précédente et témoigna en même temps beaucoup d'intérêt pour la jeune dame, qui, dit-elle, éprouvait la plus vive inquiétude de ne pouvoir continuer son voyage. « C'est une charmante créature, » ajouta-t-elle, « et je suis certaine de l'avoir déjà vue. Je soupçonne qu'elle est amoureuse et qu'elle s'enfuit en ce moment de chez ses parents. Qui sait si quelque jeune gentilhomme n'est pas à l'attendre quelque part dans une situation aussi pénible que la sienne ?» Ces derniers mots pénétrèrent le cœur de Jones. Il poussa un profond soupir. Quoiqu'il n'eût point échappé à Mrs. Walters, elle n'eut point l'air d'y avoir fait attention, tant que l'hôtesse resta dans la chambre. Mais aussitôt que la bonne femme fut partie, elle ne put s'empêcher de faire entendre assez clairement à notre héros que ce soupir lui donnait lieu de craindre une rivale fort dangereuse. L'embarras de Jones en cette occasion ne servit qu'à l'en convaincre de plus en plus, bien qu'il n'eût répondu directement à aucune de ses questions. Mais elle n'était pas assez délicate dans ses amours pour que cette découverte l'affligeât beaucoup. Ses yeux étaient vivement charmés de la beauté de Jones, et comme elle ne pouvait voir ce qui se passait dans son cœur, elle se gardait bien d'en concevoir aucune inquiétude. Elle consentait à tenir sa place au banquet de l'amour, sans s'inquiéter que quelque autre y eût déjà été, ou pût y être traité par la suite aussi bien qu'elle. Sentiment qui, s'il est peu délicat, est beaucoup plus solide, et annonce peut-être un meilleur naturel et moins de personnalité que les désirs de ces femmes qui se résignent sans peine à s'abstenir de la possession de leurs amants, pourvu qu'elles soient bien convaincues que nulle autre femme ne les possède. Chapitre 7. Contenant des détails plus circonstanciés sur Mrs. Walters et ce qui l'avait réduite à la situation malheureuse dont elle avait été tirée par Jones. Quoique la nature n'ait pas mis une portion absolument égale de vanité et de curiosité dans la composition de toutes les créatures humaines, il n'y a peut-être pas un seul individu à qui elle n'ait réparti l'une et l'autre dans une proportion telle qu'il ne lui faille beaucoup de soins et de peines pour les subjuguer et s'en rendre maître. Il est cependant absolument nécessaire de remporter cette double victoire pour peu que l'on prétende à la réputation d'homme sage et bien élevé. Comme Jones pouvait à juste titre passer pour un homme bien élevé, il avait étouffé toute la curiosité que la situation très extraordinaire dans laquelle il avait trouvé Mrs. Walters devait naturellement faire naître. Il avait d'abord, à la vérité, essayé de la faire parler par quelques petits mots qu'il avait jetés dans la conversation. Mais quand il s'aperçut qu'elle écartait adroitement toute espèce d'explication, il consentit à rester dans son ignorance, d'autant plus qu'il n'était pas sans quelques soupçons que certaines circonstances auraient pu la faire rougir si elle avait voulu dire toute la vérité. Mais comme il est possible que quelques-uns de nos lecteurs ne se résignent pas si facilement à la même ignorance, et comme nous avons le plus grand désir de les contenter tous, nous avons pris des peines infinies pour nous informer de la vérité du fait, par le récit duquel nous terminerons ce livre. Cette dame avait donc vécu quelques années avec un certain capitaine Walters, du même régiment que celui dans lequel servait M. Northerton. Elle passait pour la femme du capitaine et portait son nom. Cependant, comme le sergent l'avait dit, il y avait quelques doutes sur la réalité de leur mariage, doute que nous ne prendrons pas sur nous d'éclaircir en ce moment. Mrs. Waters, je suis fâché de le dire, avait depuis quelque temps contracté avec l'enseigne dont nous venons de parler une intimité qui ne lui avait pas fait infiniment d'honneur. Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'elle avait un goût remarquable pour ce jeune homme. Le poussait-elle jusqu'à entretenir avec lui une liaison tout à fait criminelle? C'est ce qui n'est pas aussi parfaitement clair. À moins que nous ne supposions que les femmes n'accordent jamais à un homme toutes leurs faveurs, à l'exception d'une seule, sans lui accorder celle-là aussi. La division du régiment dans lequel servait le capitaine avait 2 jours de marche sur la compagnie dans laquelle M. Northerton servait en qualité d'enseigne, en sorte que la première était arrivée à Worcester le jour même après la malheureuse rencontre de Jones et de Northerton, dont nous avons parlé plus haut. Or, il avait été convenu entre Mrs. Waters et le capitaine qu'elle l'accompagnerait jusqu'à Worcester, où ils devaient prendre congé l'un de l'autre, et elle s'en retourner à Bath pour y demeurer jusqu'à la fin de la campagne d'hiver qui se préparait contre les rebelles. M. Northerton avait été instruit de cette convention, et s'il faut dire la vérité, la dame lui avait donné rendez-vous à Worcester même, où elle lui avait promis d'attendre que sa division arrivât. Dans quelle vue et à quel dessein, c'est ce que nous devons laisser deviner au lecteur. Car, quoique nous soyons obligés de rapporter les faits, nous ne le sommes pas de faire violence à notre disposition naturelle par aucun commentaire qui pût tourner au désavantage de la plus aimable portion du genre humain. Northerton n'eut pas plutôt obtenu son élargissement, ainsi que nous l'avons vu, qu'il se hâta d'aller rejoindre Mrs. Waters. Et comme c'était un gaillard actif et dispos, il arriva à la ville dont nous venons de parler peu d'heures après que le capitaine Waters l'eut quitté. Il ne se fit aucun scrupule d'instruire aussitôt la dame de son malheureux accident, et en effet il ne le fit paraître que malheureux, car il en supprima totalement toutes les particularités qu'on aurait pu nommer crime, du moins au tribunal de l'honneur, quoiqu'il laissât subsister dans son récit quelques circonstances dont le tribunal de la justice aurait pu lui demander compte. Les femmes, ceci soit dit à leur gloire, sont plus généralement susceptibles que les hommes de cette passion violente et en apparence désintéressée que l'on appelle amour, et qui ne cherche que le bien de l'objet aimé. Mrs. Waters n'eut donc pas plutôt appris le danger auquel son amant était exposé que toute considération autre que celle de sa sûreté disparut devant elle. Ce sentiment étant partagé par le jeune homme, ils s'occupèrent immédiatement des moyens de l'assurer. Après une longue conférence sur cette matière, il fut enfin arrêté que l'enseigne prendrait un chemin de traverse pour se rendre à Hereford, où il se ferait conduire à l'un des ports de mer du pays de Galles et passerait de là chez l'étranger. Mrs. Waters déclara qu'elle l'accompagnerait dans toute cette expédition, pour laquelle elle était en état de lui fournir de l'argent. Article très important pour M. Northerton, car elle avait alors dans son portefeuille 3 billets de banque montant ensemble à 90 livres sterling, outre son argent de poche et une bague de diamants d'une valeur assez considérable. Elle poussa la confiance jusqu'à donner à ce misérable tout le compte de sa petite fortune, soupçonnant peu qu'elle pût lui inspirer ainsi le désir de la voler. Comme ils auraient pu, en prenant des chevaux à Worcester, fournir à ceux qui auraient eu envie de les poursuivre le moyen de découvrir par la suite la route qu'ils auraient prise, l'enseigne proposa, et la dame accepta sur le champ, de faire la première poste à pied, ce qui était plutôt un plaisir qu'une peine, attendu la rigueur du froid. La plus grande partie du bagage de la dame était déjà à Bath, et elle n'avait gardé qu'une très petite quantité de linge que le galant se chargea de porter dans ses poches. Tout ayant donc été arrangé dans la soirée, ils se levèrent le lendemain matin de bonne heure et partirent de Worcester à 5 heures, c'est-à-dire environ 2 heures avant le jour. Mais la lune, qui était alors dans son plein, leur fournissait toute la lumière qu'elle peut donner. Mrs. Waters n'était pas de ces femmes délicates qui doivent à l'invention des voitures la faculté de se transporter d'un lieu à l'autre et qui par conséquent mettent une berline au nombre des nécessités de la vie. Ses membres étaient pleins de force et d'agilité, et comme son esprit n'était pas moins entreprenant, elle était parfaitement en état d'aller le même pas que son amant. Après avoir fait quelques milles sur le grand chemin que M. Northerton assurait être celui d'Hereford, ils arrivèrent à la pointe du jour, à l'entrée d'un grand bois, où il s'arrêta soudain, et où, après avoir fait semblant de réfléchir, il témoigna quelques craintes de suivre plus longtemps une route aussi fréquentée. Il persuada donc aisément à sa belle compagne de prendre avec lui un sentier qui paraissait conduire tout droit à travers le bois et qui aboutissait directement au pied de la colline de Mazar. Je ne saurais dire si l'exécrable projet qu'il fut sur le point d'exécuter était la suite d'une délibération antérieure ou s'il lui vint alors dans la tête pour la première fois. Mais étant arrivé en ce lieu solitaire, où il était extrêmement improbable qu'on vînt l'interrompre, il défit soudain sa jarretière et, se jetant avec violence sur la pauvre femme, essaya d'accomplir le crime horrible et détestable dont nous avons parlé et que prévint si heureusement l'arrivée de M. Jones, envoyé sans doute par la Providence. Il fut heureux pour Mrs. Waters de n'être pas l'une des plus faibles de son sexe, car en lui voyant faire un nœud à la jarretière et en entendant ses discours, elle n'eut pas plutôt aperçu quel était son infernal dessein qu'elle se tint vaillamment sur la défensive et lutta avec tant de force contre son ennemi, tout en criant au secours, qu'elle retarda pendant quelques minutes l'exécution du projet de ce misérable. Ce qui donna le temps à M. Jones de venir jusqu'à elle, au moment même où ses forces commençaient à l'abandonner. C'est ainsi qu'elle fut arrachée des mains du scélérat, sans autre perte que celle de sa robe qu'il lui avait enlevée, et de sa bague de diamants, qui durant le combat avait glissé de son doigt, ou lui avait été arrachée par Northerton. Voilà, cher lecteur, le fruit de la recherche extrêmement pénible que nous avons faite à ce sujet pour te satisfaire. Reçois-en l'hommage. Nous venons de te peindre une scène de folie et de scélératesse dont nous aurions eu peine à croire qu'une créature humaine pût se rendre coupable, si nous ne nous fussions souvenus que le coquin était alors persuadé qu'il avait déjà commis un meurtre et que sa tête était sous le glaive de la loi. Concluant donc qu'il n'y avait pour lui de sûreté que dans la fuite, il crut que la possession de l'argent et de la bague de cette pauvre femme balancerait en quelque sorte le nouveau fardeau dont il allait surcharger sa conscience. Nous devons ici, cher lecteur, te recommander avec le plus grand soin de ne point autoriser de l'infâme conduite d'un scélérat tel que celui-ci pour juger un corps aussi respectable et aussi rempli d'honneur que celui des officiers de notre armée. Tu voudras bien considérer que ce misérable était sans naissance, n'avait point reçu l'éducation qui convient à un homme bien né, et n'était fait sous aucun rapport pour être enrôlé parmi eux. Si son opprobre peut donc à juste titre rejaillir sur un autre que lui-même, ce ne peut être que sur celui à qui il était redevable de son brevet. Fin du livre 9e.